Bienvenue aux Apatrides de Zanonyme. Vous êtes bien à choc.ca en direct des studios de l'Université du Québec à Montréal en ce 2 mai 2024, 18h33. Pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent en direct, sinon c'est sur, c'est en balado sur notre page sur le site de Choc ou sur apatridesanonyme.info. C'est Mathieu au micro pour animer ce soir cette belle émission. Pleine de contenu et de musique et d'indicatifs et aussi d'informations. Simon est avec moi, bonsoir.
Salut Mathieu, je déborde de contenu effectivement.
Et oh là là, ça va être schlingant. Et Marie-Ève?
Moi aussi.
OK, donc on va y aller dans pas longtemps d'abord. Juste vous dire qu'on va vous parler aujourd'hui des nouvelles de Tunisie et d'Espagne. On va aussi vous parler de Chypre et de Grèce. De la peine capitale dans certains pays. On va parler aussi des actualités autochtones et des actualités immigration Québec-Canada. Palestine-Israël, évidemment, plein de nouvelles. On va commencer avec les enjeux autochtones et il y aura un agenda antiraciste et de la musique de François Bourassa Quartet, de Erika Angel et aussi de Rancœur. Donc, on commence dans quelques secondes. Donc, on avait commencé, mais là, on va vraiment dans le vif du sujet. Simon est avec moi dans le studio principal et tu vas nous parler d'actualités autochtones d'ici, d'ailleurs.
Pan-canadienne, donc ça dépend de ta définition d'ici. Quelques brèves. On va partir de l'ouest, on va revenir vers l'est tranquillement. Peut-être parler du Québec, je ne suis pas sûr que je vais avoir le temps. On commence avec une nouvelle un peu insolite dans le Grand Vancouver, qui, ben, comme Montréal, mais puissance 3 ou 4, un développement immobilier sauvage depuis des décennies. Les tours de luxe poussent comme des champignons à travers une trame urbaine préexistante, ce qui implique une multiplication de démolitions de bâtiments toujours viables. 2700 maisons, souvent en très bon état, qu'on met à la poubelle chaque année à Vancouver.
Okay.
Ça donne un phénomène qu'on observe de plus en plus fréquemment. Question d'éviter le gaspillage, on extrait les maisons de leur terrain, on les dépose sur des plateformes qui prendront la route ou sur des barges qui vont flotter vers leur nouvelle destination, des communautés autochtones qui vivent aussi la crise du logement et qui sont freinées dans leur développement par l'explosion des coûts de construction. Solution intéressante autant pour le patrimoine bâti que pour l'écologie. Il faut savoir que détruire un bâtiment, c'est toujours une petite catastrophe environnementale en soi. En termes de déchets, de poussière, émanations de toutes sortes. Donc, dans le contexte hautement spéculatif de Vancouver, c'est une option mitoyenne qui a plein d'avantages, mais qui demeure complexe, mais relativement abordable, environ moitié moins cher que de construire du neuf.
Okay.
Donc, il y a de plus en plus de communautés qui signent des ententes avec des entreprises qui offrent ce genre de services. Alors, soyez pas surpris si vous visitez la région, voir des maisons sur les routes, sur les fleuves, et si vous traversez des villages autochtones, vous verrez toutes sortes de bâtiments de styles et d'époques différentes, des mini-musées du patrimoine résidentiel de l'Ouest. Je vous parle maintenant du fleuve Columbia, fleuve très important qui prend sa source en Colombie-Britannique, traverse ensuite l'État de Washington, puis l'Oregon, où il se jette dans le Pacifique. Le fleuve fait l'objet d'un traité entre les États-Unis et le Canada depuis 60 ans, et l'heure du renouvellement du traité est arrivée. Le Columbia est très harnaché, très contrôlé, plus de 60 barrages, surtout aux États-Unis. Et du côté canadien, une bonne partie du fleuve est constituée d'une succession de réservoirs qui ont largement inondé des terres autrefois occupées par des communautés autochtones, dont les préoccupations à l'époque des négociations du traité étaient complètement ignorées. On les consultait tout simplement pas.
Ben oui.
Du côté canadien seulement, 120 000 hectares de terres avaient été rendus inhabitables dans les années 50-60. Aujourd'hui encore, on joue continuellement avec les niveaux et les débits pour accommoder l'industrie hydroélectrique des deux côtés de la frontière.
Mm-hmm.
Donc, on se retrouve avec des territoires parfois inondés, parfois émergés, ce qui les rend impropres à tout établissement humain. Donc, plus de 2000 personnes déplacées à l'époque, des personnes dont l'ascendance vivait en bordure du fleuve depuis des siècles et dont toute l'organisation spatiale, communautaire, économique, la circulation s'articulait en fonction de la configuration naturelle du fleuve. Donc, dispersion, effritement et même extinction de certaines des communautés autochtones autrefois riveraines. Des déclarations d'extinction parfois précoces, ce qui ouvrait la porte à des développements d'infrastructures lourds. C'est le cas des sinistes qui occupent les deux côtés de la frontière. Nation déclarée éteinte au Canada dans les années 50, puis officiellement réanimée par la Cour suprême en 2021.
Oui, 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 c'est un petit quelque chose, toi, là. Ouais.
Ben, c'est parce qu'ils survivaient du côté américain, et comme le territoire est considéré sacré des deux côtés, il y en a qui ont décidé de retourner.
Oui, oui.
Donc, les Sinixes entendent maintenant se réapproprier une partie de leur territoire et ont aussi un projet environnemental en parallèle, refaire du fleuve Columbia la rivière à Truite et à Saumon qu'elle a déjà été. Ça, c'est quand même un projet assez considérable, d'assez grande ampleur. Donc là, je vous ai résumé très rapidement un dossier assez compliqué. Les négociations sur le renouvellement du traité se poursuivent pour plusieurs mois. Cette fois-ci, il y aura des représentants des communautés autochtones qui seront autour de la table, mais on va espérer qu'il en ressorte des éléments concrets et que ce soit pas juste un simulacre de négociation pour se donner bonne conscience.
Bien sûr.
Au Manitoba, maintenant, dossier similaire, des centaines de kilomètres carrés de terre que les autorités provinciales ont choisi d'inonder en détournant des rivières pour épargner Winnipeg. Conséquence désastreuse pour 18 collectivités autochtones au nord de la capitale du Manitoba. Des Ojibwés, entre autres, dont les villages, les maisons ont soit simplement disparu ou ont été isolés du reste du territoire qui s'en est trouvé complètement déstructuré. Et là, je parle pas des années 50-60, mais de 2011. Mm-hmm. Donc, ça fait à peine 13 ans. Le choc avait été très brutal. C'était une décision politique du gouvernement manitobain pour laquelle la province a été reconnue responsable par une décision de justice en 2021, ce qui ouvre maintenant la porte aux indemnisations qui se font toujours attendre pour défrayer les coûts de relocalisation des infrastructures, des biens privés, mobiliers, immobiliers, souvent irrécupérables étant donné les moisissures, les infestations, les dommages structurels, les puits contaminés. Certains membres de communautés ont vécu à l'hôtel à Winnipeg pendant des années. Certains sont morts sans jamais avoir pu retourner là où ils avaient toujours vécu. Il y a la nation Pequis, donc, qui a récemment annoncé qu'elle intentait une poursuite de 1 milliard de dollars envers différents paliers de gouvernement, surtout le palier provincial. Et je ne serais pas surpris que d'autres nations fassent des annonces semblables prochainement. Toujours dans la thématique du racisme environnemental, maintenant en Ontario, dans la région de Sarnia, une nouvelle toute récente, la Première Nation Amjenang a déclaré l'état d'urgence en raison de la qualité de l'air qu'elle respire, qui est grandement affectée depuis plusieurs semaines, selon tous les relevés effectués par des niveaux très élevés de benzène, un cancérigène puissant associé entre autres à la leucémie, dont les émissions sont, selon le communiqué émis par le conseil de bande, continues et excessives, communiqué dans lequel on donne aussi des coordonnées d'urgence si les membres de la communauté ne se sentent pas en sécurité ou ont besoin d'hébergement temporaire. Plusieurs membres de la Première Nation se sont déjà prévalus de cette offre et se trouvent actuellement dans des hôtels de la région. Beaucoup se questionnent sur leur avenir. Une partie songe même à ne jamais retourner, particulièrement des parents qui s'inquiètent pour la santé de leurs enfants et qui n'apprécient pas d'être mis au courant de ces émissions de cancérigènes après coup. L'entreprise pointée du doigt est Ineos Styrolution, qui fait partie de la grappe industrielle pétrochimique de la région, tristement surnommée Chemical Valley, où on se spécialise en produits plastiques. Ça nous rappelle un peu le Mississippi entre Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge, la Cancer Alley, où des communautés noires établies depuis des générations vivent exactement le même enjeu. On en parlait il y a quelques mois. Bref, Ineos Styrosolution, beau jeu de mots, Styrosolution. Styrolution, pardon, a suspendu ses activités pour effectuer certains ajustements afin de se conformer aux injonctions du ministère ontarien de l'Environnement, mais entend poursuivre ses activités le plus rapidement possible. Mm-hmm. Tout ça se produit alors qu'à Ottawa se tient en ce moment même le sommet international sur la pollution plastique, où on tergiverse sur la conclusion d'un accord mondial et où sont inscrits 200 lobbyistes de l'industrie des combustibles fossiles et des produits chimiques. Mm-hmm. Donc voilà qui conclut ce bloc actualité autochtone. La prochaine fois, il va absolument falloir qu'on vous parle du traité Petapan au Québec qui concerne trois nations Innu et évidemment les négociations avec le provincial. Ça piétine.
Ça n'existe plus, les négociations actuellement. Mm-hmm. Ben écoute, Simon, Sarnia, oui, c'est un cauchemar, ça aussi, c'est effrayant, ça, cette région-là.
Oui, c'est un endroit extrêmement toxique.
Là. Donc, tu nous as parlé de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l'Ontario. Donc, moi, je vais aller un petit peu plus vers le sud, vers New York,
pour des
rencontres internationales. Premièrement, ben, des représentants autochtones de 35 pays ont publié une déclaration critiquant le fait qu'ils sont trop rarement consultés sur l'exploitation minière qui a lieu sur leur terre ou à proximité. Un problème qui est devenu plus pressant avec la demande accrue de minéraux nécessaires à la transition vers un système énergétique plus propre. Ça me dit quelque chose. La déclaration a été partagée dans le cadre de la conférence sur les peuples autochtones et la transition juste qui s'est tenue à New York à la mi-avril. Cette conférence a eu lieu juste avant la 23e session de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. La déclaration mentionne également l'augmentation des persécutions criminelles et des attaques contre les dirigeants autochtones. On en a souvent parlé ici. Environ la moitié des projets de transition énergétique, minérale et métallurgique sur Terre sont situés sur ou à proximité des terres des Autochtones dans le monde. Donc, justement, pour ce qui est de cette instance permanente, entre le forum permanent et les événements parallèles, plus de 1500 Autochtones se sont retrouvés pour faire entendre leur voix devant cette instance des Nations Unies sur les questions autochtones. Il y a un siècle, le chef iroquois Descahé s'était adressé à la Société des Nations à Genève pour faire entendre la voix des peuples autochtones, mais il aura fallu attendre l'an 2000 pour que l'instance permanente sur les questions autochtones soit créée et 2 ans de plus pour qu'elle se réunisse une première fois en 2002.
C'est long, hein?
C'est très long. Le thème de cette année était « Renforcer le droit des peuples autochtones à l'autodétermination dans le contexte de la Déclaration des Nations Unies et mettre l'accent sur la voix des jeunes autochtones ». C'est une femme autochtone Mbororo du Tchad, Hindou Oumarou Ibrahim, qui a été élue au poste de présidente pour l'ensemble de la session qui a duré 10 jours, cette 23e session. Devant les représentants des États, elle n'a pas hésité à lancer que les droits de la personne et des peuples autochtones sont menacés par les États et les entreprises privées, évoquant évidemment l'accaparement des terres, comme tu nous parlais tantôt, Simon, aussi. Ouais. Au niveau plus local, mais dans le cadre de cette conférence à New York, les Abénakis du Québec ont pris la parole pour dénoncer ce qu'ils appellent une fraude identitaire de groupe reconnu par le Vermont comme Abénaki. Le chef d'Odanak, Rick Obunsawim, a affirmé, je le cite, « La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples reconnaît que les peuples autochtones jouissent de droits importants, notamment celui de l'auto-identification. » Mais est-ce que ça permet à certains de voler notre langue, notre histoire, notre culture? Sont-ils venus prendre aussi nos peines et nos souffrances? Cela doit être stoppé. Ils demandent donc aux Nations Unies de réécrire le texte. Et je le cite encore, je pense que nos nations devraient avoir le droit de décider qui est membre ou pas de nos communautés. On parle ici du phénomène de l'auto-autochtonisation des Blancs et ses effets.
J'ai jamais entendu ce terme auparavant.
Auto-octonisation, voilà. Après 30 ans d'essai, 4 groupes ont été reconnus comme Abénaki par le Vermont en 2011 et 2012. Mais plusieurs experts affirment que les membres n'ont pas d'ancêtres Abénaki et seraient des descendants d'immigrants canadiens français, tout simplement. Grâce à cette reconnaissance, ils peuvent, par exemple, tenir des fonds pour des programmes sociaux, avoir accès à des permis gratuits pour pêcher et chasser, ou encore faire des objets d'art labellisés autochtones. C'est un problème global qui s'observe dans plusieurs pays comme l'Australie, Taïwan, les Philippines, la Finlande et le Mexique, hein, des pays assez différents. Et pendant 24 heures, les Abénakis ont été visibles sur un écran géant à Times Square. Toutes les heures, pendant une minute, est apparu en anglais le message suivant. Arrêtons la fraude identitaire autochtone, Abénaki d'Odanak et de Wallinak, seul gardien de l'identité Abénaki. Ça a été leur action pendant la conférence. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire qui s'est passé des choses. Puis c'est un bel événement, tu vois les photos, il y a du monde de partout dans le monde. Ça parle des milliers de langues. C'est, il y a du traducteur au pouce carré, là, c'est quelque chose.
Il y a des Abénaki au Québec aussi, là.
Ben, c'est ça.
Oui.
Odanak, Wallinak, exactement. C'est seulement au Québec qu'il y en a.
OK.
Oui. D'ailleurs, c'est ceux-là qui étaient là. Donc, mais vraiment, une conférence, aller voir les photos, aller voir les événements, c'est vraiment spectaculaire. Donc, voilà pour ce qui est de ce bloc autochtone, finalement. Merci, Simon. On va donc y aller, en musique, hein, n'est-ce pas? Avec un groupe qui s'appelle Rancœur, la pièce Délivrance. C'est un groupe de Nancy en France. C'est un trio qui fait de la cold oi. Donc, cold wave oi punk. Vous allez voir, c'est un mélange assez intéressant. C'est tiré de leur mini-album L'âme en peine, mais L-A-M-E, pas d'apostrophe, L'âme en peine. C'est sorti en 2023. Donc, l'âme de couteau, c'est bon. Donc, on y va avec Rancœur. Donc, c'était le groupe Rancœur qui est venu à Montréal dans les derniers mois d'ailleurs. Est-ce que Marie-Ève, t'aimes ça de la Cold Oil?
Ben, c'est pas pire.
Pas pire, hein?
Ouais, ouais.
Ça mélange justice, c'est le fun. Donc, ben, écoute, je te passe la parole. Tu nous amènes dans la Méditerranée?
Ben oui, je vous amène d'abord en Grèce, où une toute petite île au sud de la Crète et à 180 km de la Libye, connaît un afflux de personnes migrantes tellement important qu'on commence déjà à l'appeler la Lampedusa grecque.
Et là là.
Il s'agit de l'île de Gavdos où 1180 migrants venus de Libye par la mer sont arrivés depuis le mois de janvier. Pour vous donner une petite idée, à la même époque l'année passée, il y en avait eu zéro d'enregistrés. Puis sur l'ensemble de l'année 2023, c'était 860 arrivés, là, 860 personnes à avoir atteint Gavdos par la mer. Ça, ce sont les chiffres du HCR. Donc, 860 pour un an, puis là, ben c'est 1180 pour trois mois, tu sais. Et donc, selon la mairesse Liliane Stefanaki, depuis le week-end du 9 mars, des bateaux arrivent presque quotidiennement.
Okay.
Ce sont des chiffres énormes pour cette petite île de 30 km² qui ne compte que 70 habitants à l'année, dont seulement deux familles avec quatre enfants. Les autres, c'est toutes des personnes âgées qui vivent pour la plupart seules. Alors, on comprendra qu'il n'y a aucune infrastructure d'accueil sur l'île, d'autant qu'il y a un seul policier de façon permanente en poste. Là. La plupart des nouveaux arrivants sont transférés rapidement vers la Crète, où là, ben, ils sont hébergés dans des centres d'accueil improvisés dans les ports en attendant d'être transférés sur le continent. Mais quand le temps est trop mauvais et que les transferts là, de Gavdos sont impossibles, ben, les personnes doivent rester dormir sur l'île. Où exactement? Difficile de savoir. Selon les informations de l'agence de presse Reuters, ils s'abriteraient dans un bâtiment abandonné.
Est-ce qu'on sait pourquoi ils arrivent là maintenant ou c'est...
Je vais y arriver.
Tu vas y arriver, hein, Marielle?
Le HCR assure prendre le contrôle, pas le contrôle, mais le problème au sérieux et être en contact avec les autorités là, grecques centrales et locales. Mais pour le moment, tout ce qu'il fait, ben, c'est de fournir là, des articles non alimentaires, par exemple des couvertures, des sacs de couchage, des kits d'hygiène là, pour répondre aux besoins les plus urgents. Sans surprise, ben, face à ce conflit, à ce nouvel afflux-là, le gouvernement conservateur grec est inquiet, d'autant que historiquement, les bateaux qui quittaient la Libye se rendaient généralement en Italie. Les autorités ont donc peur d'être face à une nouvelle route migratoire, donc c'est ça qui se profile probablement, qui relie Tobrouk à Gavdos. C'est que de plus en plus d'Égyptiens fuient actuellement la crise économique de leur pays et rejoignent la Libye voisine à Tobrouk dans l'espoir de venir rejoindre là, par la mer les côtes européennes. Donc, au début du mois d'avril, le gouvernement grec a promis d'accorder un soutien financier et humain aux deux îles, là, Crète et Gavdos. Ce sera donc à suivre. Alors, on reste dans la Méditerranée, mais on se déplace vers l'est pour rejoindre l'île de Chypre, qui connaît elle aussi un important afflux de personnes migrantes. Chypre détient actuellement le deuxième plus haut taux de demandeurs d'asile de l'Union européenne par rapport à sa population. L'île a enregistré plus de 2000 arrivées par la mer au cours des trois premiers mois de l'année, contre seulement 78 au cours de la même période en 2023.
Okay.
Donc c'est un bond impressionnant encore une fois. Le président chypriote, lui, accuse le Liban, qui est situé à 160 km de là, d'encourager les traversées clandestines de Syriens fuyant la guerre. C'est que le Liban est le premier pays d'accueil des réfugiés syriens, où il serait entre 800 000 et 1,5 million. Mais la crise économique dans le pays, là aussi, ben, elle pousse les exilés à partir. Donc, tu sais, des exilés qui partent d'un pays puis qui finalement vont dans un autre pays, dans un autre pays. C'est un peu les dominos.
Crise sur crise, ben oui.
Exact. Le gouvernement chypriote a décidé à la mi-avril de suspendre temporairement le traitement des demandes d'asile des Syriens. En réaction à ça, il demande aussi à l'Union européenne de renforcer l'aide économique qu'elle accorde directement au Liban. Dans la pratique, ben, la suspension du traitement des demandes signifie que les demandeurs d'asile vont pouvoir déposer un dossier, mais qui ne sera pas traité. Ils vont être confinés dans deux camps d'accueil qui fournissent un abri, de la nourriture, puis qui réglementent les sorties, mais il n'y aura rien d'autre là, qui vont leur être fourni. Ceux qui choisissent de quitter ces installations-là vont perdre automatiquement toute forme d'aide et ne seront pas autorisés à travailler. Pour l'ONG Cyprus Refugee Council, qui a été interrogé par Info Migrants, la décision du gouvernement chypriote ne repose sur aucune base légale. L'ONG doute aussi que la mesure réussisse à réduire le nombre d'arrivées de réfugiés, parce qu'ils sont généralement pas au courant de ce type de décision-là. Puis en plus, ben évidemment, les passeurs ne les informent pas de ça. Elle croit au contraire que la mesure risque d'aggraver la crise d'accueil des demandeurs d'asile, étant donné que les deux centres d'hébergement de l'île ben ont des capacités d'accueil limitées.
Oui. Ben oui.
Or, de plus en plus de demandes d'asile syriens risquent de se retrouver bloquées dans ces centres-là si leurs demandeurs d'asile sont pas sont pas examinées. En 2022, il y a aussi une décision similaire qui avait été prise pour tenter de limiter l'arrivée des Syriens à Chypre, mais toujours selon le Cyprus Refugee Council, cette décision-là avait pas eu l'effet là de avait eu aucun effet sur le nombre d'arrivées de le nombre d'arrivées. Les autorités chypriotes ont aussi annoncé avoir expulsé plus de 3300 étrangers du pays au cours des quatre premiers mois de l'année 2024, comparativement à un peu plus de 2300 expulsions à la même année en 2023, à la même période, pardon, en 2023. Ces renvois-là qui incluent là, des expulsions forcées, des retours volontaires, des relocalisations, concerne généralement les Maghrébins, les Africains subsahariens, les Bangladais et les Égyptiens. Mais c'est important de préciser que les renvois forcés concernent pas les Syriens ni les Afghans parce qu'ils sont inexpulsables en raison de la situation politique dans leur pays. Puis je termine en parlant là, plus précisément des retours volontaires. Le pays propose une incitation financière aux migrants pour pousser les exilés à accepter là, de retourner dans leur pays. Un bureau entier a même été dédié à ce type de retour-là, le Civil Registry and Migration Department. C'est cette structure-là qui fournit à chaque personne là, un billet d'avion de retour et la somme promise pour les faire partir. Et la somme promise, ben le montant varie selon le pays d'origine. Les Égyptiens, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Bangladais et les Indiens touchent 1000 euros. Et les personnes en partance pour la Gambie, le Nigeria, le Sénégal, la République démocratique du Congo et le Cameroun touchent, eux, 1500 euros.
Oui, j'en avais glissé un mot au début de l'année dans mon... C'était ma région chaude ou Chypre. Il se passe beaucoup de choses. On va en reparler régulièrement.
Fait que dans les îles, en tout cas, ça bouge beaucoup. Ça va être à surveiller.
Ça change de
là.
Place, ça revient. Ouais. Ben, on continue à surveiller ça, évidemment, à l'émission. C'est un de nos sujets les plus pertinents. Donc, merci Marie-Ève pour cette chronique chypriote et grecque.
Ça fait plaisir.
Pardon. Je vais poursuivre, malheureusement ou heureusement, avec le génocide à Gaza. On peut pas trop s'en sortir. Deux nouvelles plutôt correctes en commençant, même si c'est un peu dérisoire des fois. La campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'Israël, une partie fondatrice du mouvement BDS, se félicite de la nouvelle selon laquelle Puma ne renouvellera pas son contrat avec l'association israélienne de football. Puma a été la cible d'une campagne mondiale de BDS depuis 2018 pour son soutien à l'apartheid israélien. L'IFA gère et préconise le maintien d'équipes dans les colonies illégales sur les terres palestiniennes volées. C'est aussi une leçon pour la FIFA, profondément complice, qui n'a jamais voulu s'en mêler, qui continue de protéger Israël de toute responsabilité malgré les équipes dans les colonies qui violent les propres statuts de la FIFA. Donc, l'histoire de Puma, que vous avez sûrement entendu parler, et le boycott, ça serait réglé pour l'instant. Sinon, ici même à l'UQAM, victoire historique, la communauté étudiante de l'UQAM devient ici la première au Canada à avoir adopté le mandat BDS pour l'ensemble de ses associations étudiantes. Depuis 2017, le groupe Solidarité des droits humains des Palestiniens et Palestiniennes, SDHPP, a joué un rôle important dans l'éducation et la sensibilisation aux réalités palestiniennes au sein de l'université, coordonnant les efforts de la campagne BDS. Et voilà, donc cette association étudiante de l'UQAM ont progressivement adopté des mandats depuis 2017, à commencer par la FESPED, ensuite la FESH, la DES, la FEA, la FEC, l'Association des sciences, et le 20 mars dernier, la 8e association, l'Association des étudiants en gestion de l'UQAM, ont voté pour le mandat BDS. Donc l'ensemble des étudiants ont accepté donc officiellement d'appuyer la campagne BDS, un mouvement donc UQAMien. Pan-UQAMien, on pourrait dire.
Ouais.
Pour la suite, ben, le SDHPP va œuvrer pour que l'UQAM mette fin à tout programme d'échange, projet commun ou autre lien avec les universités israéliennes ou le gouvernement israélien. Donc, voilà, c'était les deux petites nouvelles. Sinon, bonne nouvelle, entre guillemets. Sinon, ben, les manifestations contre les profiteurs de guerre continuent aussi. Début avril, des manifestants ont perturbé les activités de la compagnie canadienne Hérou DevTech, qui fabrique les trains d'atterrissage des avions F-35, eux-mêmes produits par Lockheed Martin. Ils ont bloqué les accès à l'usine de Longueuil en demandant à ce que l'entreprise cesse sa participation à la chaîne de production des avions actuellement utilisés par Israël à Gaza. Aussi, ça, les médias en ont parlé un peu plus, une quarantaine de manifestants pro-palestiniens ont occupé la succursale de la Banque Scotia de la Tour Scotia à Montréal le 15 avril dans le cadre de la Journée mondiale de blocus économique pour la Palestine. Le SPVM avait été déployé pour une autre manifestation au consulat des États-Unis à quelques minutes de marche de là, mais il y a eu une occupation. Il y a finalement eu 45 arrestations, accusations de méfaits de moins de 5 000 $ pour l'ensemble de ce beau monde-là. Une autre manif avait lieu aussi dans Hochelaga-Maisonneuve plus tôt le matin. Donc, c'est une cinquantaine de villes à travers le monde qui ont participé à la Journée mondiale de blocus économique pour la Palestine. Comme on sait, la Banque Scotia a investi dans la firme d'armement israélien Elbit, entre autres. Depuis le mois d'octobre, les manifestations pro-Palestine à Montréal ont généré une forte présence policière. Pivot s'est entretenu avec des témoins et une avocate qui dénoncent la violence et le double standard des policiers à l'endroit de ceux et celles qui défendent les droits des Palestiniens versus les manifs pro-israéliennes. Donc, un article à lire qui s'appelle « Les manifestants pro-Palestine à la merci de la répression policière ». C'est sorti donc au mois de mars dans Pivot. Et aussi un article de Radio-Canada sur Toronto au sujet des manifestations pro-palestiniennes où il y a des élus municipaux qui se chicanent avec la police, avec les manifestants sur l'espèce de deux poids, deux mesures, encore une fois, ou de la brutalité excessive de la part de la police. Donc, un article de Radio-Canada qui s'appelle « Manifestations pro-palestiniennes, le ton monte à Toronto », sorti en avril. Et je termine avec la flottille de la liberté pour Gaza, qui reste bloquée en Turquie,
ben oui,
privée de pavillons de navigation à la suite de pressions israéliennes. La coalition d'ONG et d'associations a dénoncé les obstacles administratifs qui les empêchent de prendre la mer après que la Guinée-Bissau a retiré son pavillon de deux des trois navires. Les autorités turques qui se targuent du soutien qu'elles apportent aux Palestiniens de Gaza avec l'envoi de 9 bateaux et 13 vols d'aide humanitaire ne se sont pas exprimés à propos de cette flottille. Les médias officiels n'en ont pas parlé non plus, donc une espèce d'ignorance volontaire. En 2010, faut dire qu'une précédente flottille avait tourné au cauchemar et généré une rupture avec Israël. L'armée israélienne avait lancé un assaut contre un des bâtiments de la flottille, faisant 10 morts et 28 blessés. Ça avait un petit peu refroidi les relations entre les deux pays, mais là, la Turquie, on dirait, est plus en attente. Donc, 3 bateaux de la flottille de la Liberté pour Gaza comptaient prendre la mer dans les prochains jours pour acheminer des denrées alimentaires et du matériel médical dans la bande de Gaza. Il y a 280 volontaires sur les 3 bateaux, militants, défenseurs des droits, avocats et médecins, entre autres. Un exemple, Ghassan Boubez, chirurgien orthopédique au CHUM de Montréal, qui voulait participer à cette mission, a décidé de ne pas y aller parce qu'il a appris que les participants seraient bannis de retourner en Israël et en Palestine pendant 10 ans. Je finis en disant que la délégation québécoise est composée de 5 personnes, mais là, pour l'instant, les 3 bateaux sont complètement bloqués. Donc, il se passe juste rien, là. C'est un petit peu plate, là. Fait que, voilà les quelques nouvelles dans le merveilleux monde du génocide de Gaza et tout ce qui est autour. Quelques notes de musique et on revient avec Immigration Québec-Canada avec Marie-Ève. Oui, toujours aux apatrides anonymes en ce 2 mai, lendemain de la Journée internationale des travailleurs travailleuses.
Ben oui, puis je vous parle principalement des travailleurs migrants temporaires. D'abord, d'un reportage de Radio-Canada assez révoltant. Je commence par un cas concret qui va nous aider à comprendre là, la problématique parce que c'était un peu compliqué. Jacobo, nom fictif, a obtenu un permis de travail fermé en mars 2023 pour un emploi d'un an de l'agence AAA Canada, qui offre des services de sous-traitance aux entreprises du domaine des transports. C'était en mars. En octobre, AAA Canada annonce à Jacobo qu'elle a plus d'heures à lui offrir pour l'instant. Après avoir maintes fois réclamé du travail, le mécanicien se fait finalement indiquer en mars dernier là, que l'entreprise avait plus besoin de ses services. l'entreprise Triple A Canada.
Oui.
Comme Jacobo possède un travail permis de travail fermé, ben il est coincé. Il n'y a plus aucun revenu pour faire vivre sa famille, c'est-à-dire sa conjointe et leurs trois enfants qui sont avec lui au Québec. Mm-hmm. Le recrutement par des agences de placement de travailleurs étrangers temporaires avec des permis de travail fermés est une pratique contraire à la réglementation du Québec. Le gouvernement du Québec généralement doit approuver là, l'embauche d'un travailleur étranger temporaire en délivrant un certificat d'autorisation du Québec. L'article 99 de son règlement sur l'immigration prévoit toutefois que de refuser de délivrer ce certificat s'il concerne une agence qui souhaite procéder à une embauche pour combler les besoins temporaires de ses clients.
Mm-hmm.
Or, certaines agences, et c'est le cas de Triple A Canada, disent ne pas avoir à se conformer à la réglementation du Québec en raison d'un accord de libre-échange signé par Ottawa. En effet, le programme de mobilité instauré par l'accord Canada-États-Unis-Mexique
ben oui.
donne aux employeurs une voie rapide pour embaucher une main-d'œuvre spécialisée sans avoir besoin de l'accord du gouvernement du Québec. Et ça, ben, si, selon l'avocate spécialisée en droit de l'immigration, Krishna Gagné, les agences ont raison de dire qu'elles n'ont pas à se conformer à la réglementation du Québec dans ce cas de figure précis, là.
Ouais.
Elle précise quand même que ben ça revient quand même à contourner l'esprit là du programme des travailleurs étrangers temporaires qui vise à combler une pénurie de main-d'œuvre chez un employeur spécifique. Je rappelle aussi qu'en vertu des règles de ce programme-là, ben l'employeur doit offrir à son employé au moins 30 heures de travail par semaine. Et dans le reportage de Radio-Canada, on apprend même qu'il y a une autre agence de placement qui va jusqu'à présenter comme un avantage la flexibilité qui est offerte aux employeurs qui font affaire avec un travailleur étranger temporaire ayant un permis de travail fermé avec une agence.
Avec une agence, ben oui.
Radio-Canada cite Dieudonné Nidou Facha, le président de l'agence de placement et de recrutement Iris. Je le cite. Il n'y a pas d'obligation de garder cette personne parce que cette personne est à nous. Si, à un certain moment, l'employeur constate que ça ne se passe pas bien avec le candidat, il n'est pas dans l'obligation de le garder. Il le remet à nous parce que nous sommes responsables de garder cette personne.
Mais on la garde sans emploi, hein? Ben oui.
C'est ça. Mais au-delà du vocabulaire là, problématique qui parle des travailleurs temporaires comme de leur propriété, là, cette affirmation-là est fausse parce que une agence de placement peut pas agir au nom d'un employeur et embaucher directement des travailleurs étrangers temporaires.
Oui, tout à fait.
Bref, mais bon, pas besoin là d'avoir été recruté par une agence de placement pour se retrouver sans emploi, coincé par son permis de travail. Il y a de plus en plus de d'immigrants arrivés invités au Canada sur un contrat de travail de 2-3 ans, qui se retrouvent sans emploi. Ils sont nombreux alors à plonger dans la misère, coincés entre un permis de travail invalide et des plans d'immigration pas mal anéantis. En entrevue au Devoir, il y a Jasmin Chabot, qui est coordonnateur à l'organisme Sherbrookeois Action interculturelle. Lui, il raconte que les congédiements et licenciements avant la fin des contrats de travail se multiplient depuis le début de l'année, alors que ce genre de cas était rare l'an passé. Il dit que maintenant, il peut en compter des dizaines dans sa région. Je le cite. De décembre à mars, on a traité 22 cas. Et ça, c'est juste ceux qui sont venus nous voir. J'ai même eu un cas où le licenciement a été déclaré le premier jour de travail. Certains sont à l'aéroport et on n'est même pas venu les chercher.
Aïe, aïe.
Il observe aussi que si une entreprise doit évidemment le réduire son nombre d'employés, ben c'est vraiment les immigrants temporaires qui partent en premier, là. Il dit voir aussi que la dynamique a évolué avec le temps, puis que si avant c'était surtout les travailleurs dans l'aménagement paysager qui venaient le voir, qui venaient voir son organisme pour des congédiements, ben maintenant ce sont des travailleurs dans les manufactures parce qu'il y a moins de commandes, puis des soudeurs parce qu'il y a moins de mise en chantier et même le secteur de l'informatique qui est touché. Je termine avec nos deux tatas du mois.
Oui.
D'abord, le ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, qui a encore une fois promis de tenir sa promesse d'un vaste programme de régularisation des personnes sans statut, mais en avertissant cette fois qu'il n'y aurait sans doute pas l'ampleur de celui annoncé il y a plus de 2 ans, au lieu d'un programme très large. Ottawa semble miser maintenant sur des régularisations à petite échelle, par secteur.
comme ils ont déjà fait dans le passé, d'ailleurs.
Exact.
Ouais.
On sait d'ailleurs toujours pas là, quand ce programme va être officiellement présenté. Ça devait l'être ce printemps. Puis là, ben Mark Miller parle maintenant de d'ici la fin de l'année. Et pourquoi ce recul? Ben, à cause d'un climat politique moins favorable à l'immigration, des dissensions au sein du cabinet Trudeau. Ça, c'est selon Mark Miller, mais toujours selon lui. C'est aussi à cause de la rhétorique toxique en matière d'immigration. Et puis, ben c'est sûr qu'avec des déclarations comme la dernière en date de Bernard Drainville, mon autre tata du mois, ça n'aide vraiment pas le climat. La semaine passée, mon oncle Drainville a mis sur le dos des immigrants temporaires les retards du gouvernement dans l'ouverture des classes de maternelle 4 ans. Et je termine sur cette fabuleuse citation. On veut créer des classes de maternelle 4 ans, mais ça nous prend des enseignants, ça nous prend des locaux. Et l'essentiel de mon personnel dans certains centres de services scolaires, celle sert essentiellement à instruire les nouveaux arrivants.
Oui, ils font juste ça. Hein?
N'importe quoi.
Il n'y a pas d'autres élèves.
Non.
Maternelle 4 ans, l'idée du siècle. Donc, merci Marie-Ève pour cette chronique Immigration Québec-Canada. On pourra en parler longtemps.
Mais peut-être que si on les envoyait à maternelle pendant qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère, ça ferait moins de locaux.
Oui. Oui, puis on pourrait demander aux travailleurs temporaires qui arrivent à l'aéroport puis qu'il n'y a personne qui vient chercher de donner, d'être éducateur en maternelle. Donc, bon, on va y aller en musique avec Erica Angel, la pièce Open Eyes. toujours sur les ondes de choc.ca, sur l'Internet, dans vos oreilles. Donc, c'était l'artiste Erika Angel, la pièce Open Eyes. C'est son premier album qui s'appelle The Obsession with Her Voice, sorti en mars dernier, il y a quelques semaines, sur Constellation Records à Montréal. C'est une compositrice et chanteuse suédoise établie à Montréal. C'est en 20e position du palmarès local de Choc et elle sera en concert le 17 juin à la Sala Rossa dans le cadre du Suoni per il Popolo. Donc, je vais y aller avec un mini-micro. Simon, va te céder la parole.
Je te l'accorde.
Merci beaucoup. T'es bien blood, comme on disait avant. on va parler d'un sujet assez lourd encore une fois, mesdames et messieurs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires accusés de trahison, alors que l'est du pays est en proie à l'avancée de la rébellion du M23, soutenue par l'armée rwandaise. Cette décision lève le moratoire sur l'exécution de la peine de mort datée de 2003, et ça vise aussi, en plus des militaires, les auteurs de banditisme urbain et de terrorisme entraînant mort d'hommes. Les condamnations à mort étaient depuis 2003 systématiquement commuées en prison à perpétuité. Les personnes condamnées à mort restaient alors détenues dans les prisons congolaises. Pour Amnesty International, la décision des autorités congolaises est une grave régression, un nouveau signe du recul alarmant de l'administration Tshisekedi, qui est le nom du président, en matière de droits de la personne. Le mouvement citoyen congolais pro-démocratie Lucha a de son côté condamné cette décision, estimant qu'elle ouvre un couloir à des exécutions sommaires dans ce pays où le fonctionnement défectueux de la justice est reconnu par tous. Sinon, dans un autre pays, les prisons iraniennes sont devenues de véritables lieux de massacre en 2023 avec au moins 853 exécutions, dont plus de la moitié en relation avec des infractions liées à la drogue, a dénoncé encore une fois Amnesty International.
Est-ce vraiment la drogue?
C'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est très, très sévère en termes de cette politique-là. Le nombre d'exécutions en 2023 est le plus élevé depuis 2015 et marque une augmentation de 48% par rapport à 2022 et de 172% par rapport à 2021. Rien que depuis le début de l'année 2024, 95 exécutions ont été recensées. Les autorités iraniennes ont renforcé la peine capitale dans le but de répandre la peur au sein de la population et de resserrer leur emprise sur le pouvoir à la suite du soulèvement Femmes, Vie, Liberté, ajoute Amnesty. Un exemple, un tribunal iranien a prononcé la peine de mort contre Tomaj Salehi, un rappeur populaire emprisonné sur la base d'accusations liées aux opinions qu'il a exprimées. La première branche du tribunal révolutionnaire d'Ispahan l'a condamné à mort pour corruption sur terre. C'est la traduction sur terre. Pas dans les cieux, mais sur terre.
Ben ouais.
En novembre 2023, la Cour suprême iranienne avait pourtant annulé la peine de 6 ans de prison précédemment prononcée contre Salehi dans cette affaire. Son avocat a indiqué qu'il ferait appel du nouveau verdict parce qu'il avait déjà été condamné à la prison. Donc là, la peine de mort, c'est un petit peu intense. Il se fait réarrêter. Puis, au mois d'avril 2024, le gouvernement avait déjà exécuté 8 personnes condamnées dans le cadre des manifestations de la campagne il y a 2 ans. La Cour suprême a par contre annulé 11 autres condamnations à mort contre des militants, des manifestants arrêtés. Parmi les personnes arrêtées lors de ces manifs figurait un autre rappeur, Saman Seyedi, connu sous le nom de Yassine. Il a été condamné à mort pour hostilité contre l'État et pour possession d'armes et complot visant à menacer la sécurité nationale, mais la Cour suprême a annulé sa peine. En terminant, selon Human Rights Watch, le gouvernement iranien a fait des tribunaux la pierre angulaire de sa répression brutale de la dissidence populaire. Fait que pour répondre à ta question, il y a un mélange de contestation, des crimes reliés à la drogue, aux armes, on mélange tout ça, puis c'est surtout des jeunes qui se font exécuter, et comme par hasard, des Kurdes et des gens des minorités ethniques aussi en bonne partie.
Tout ce qui est considéré comme ennemi de l'État.
Exactement, du régime autocratique et théocratique en Iran.
J'aurai, moi, des nouvelles tunisiennes.
Écoute, merci d'enchaîner, Simon.
Je vais commencer un peu plus à l'ouest, beaucoup plus à l'ouest avec l'Espagne. Encore une fois, avec une nouvelle un peu insolite. Le gouvernement a annoncé il y a 2 semaines la construction d'un centre d'hébergement pour migrants sur un caillou, carrément, l'île volcanique d'Alboran.
Ah oui.
En plein milieu de la Méditerranée, environ 100 mètres par 500 mètres, 0 habitants permanents. Aucune faune, sinon quelques oiseaux maritimes, à peu près aucune flore. On y trouve un phare et une toute petite garnison avec une 20aine de militaires espagnols, donc un lieu particulièrement aride et inhospitalier. Ça me fait un peu penser à ce dont Marie-Ève parlait au large de Crète. La principale activité humaine de l'île, ce sont des migrants en route vers l'Europe qui accostent, surtout en cas de mer agitée, quelquefois en grand nombre, par dizaines voire centaines d'un seul coup. Ça peut quelquefois arriver. souvent pour demander de l'aide médicale, donc certains migrants souffrant le plus souvent d'hypothermie. Donc, il y aura des structures pour prendre en charge certains besoins, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, mais ça jette un nouvel éclairage sur les traversées de la Méditerranée, sur une route qui n'est pas la plus fréquentée. L'aspect insolite de la chose, il faut vraiment que vous alliez voir où se trouve l'îlot d'Alboran et de quoi ça a l'air. C'est assez...
Peux-tu l'appeler, Simon Alboran?
A-L-B-O-R-A-N.
Parfait.
Donc, c'est assez inusité. Donc, avant de passer à la Tunisie, une autre nouvelle intéressante, le Parlement espagnol va se pencher sur un projet de régularisation massive qui bénéficierait à 500 000 personnes dans ta pipe, Marc Meller.
Ils l'ont consulté.
Ils l'ont pas consulté, ça paraît, disons. Ça a été annoncé début avril et ça fait suite à une pétition citoyenne de plus de 700 000 signatures et avec les appuis de 900 organisations et même d'une vaste majorité de députés, 310 contre 33,
quand même.
Qui ont voté pour que le projet soit à l'étude, qui n'ont pas voté pour l'adoption, pour étudier le projet. Parmi les arguments des instigateurs de la pétition, on parle d'une certaine dette morale envers tous ces gens qui, à la fois en temps normal et particulièrement durant la COVID, occupent les emplois les moins valorisés. S'occuper des personnes âgées, cueillir les fruits et légumes, faire de la livraison à manutention, de l'entretien ménager, et que la régularisation permettrait aussi à ce demi-million de personnes de mieux contribuer et s'intégrer à la société espagnole, notamment en garantissant un accès aux services et le respect de leurs droits fondamentaux. Évidemment, ce sera un long processus, il y aura de la résistance probablement, de la chicane, des propositions d'amendements, ça va passer par toutes sortes de commissions parlementaires. Il y a sûrement un genre de conseil constitutionnel espagnol qui va examiner tout ça. Je ne sais pas s'il y aura des consultations publiques, peut-être un genre de Bouchard-Taylor espagnol, ce serait très joli.
Ben oui, avec Bernard Reville.
Fernando Duran Ciudad. Mais le processus est bien entamé, la machine est partie, ce qui est déjà énorme. Donc, et il y a un précédent. En 2006, 600 000 personnes avaient été régularisées d'un seul coup, sans que les catastrophes annoncées par la droite se concrétisent. Donc, à suivre, je dirais, dans les 10-12 prochains mois pour des résultats plus tangibles. Et étant donné ce précédent, la population espagnole peut-être se dit, ça va encore bien se passer, finalement. On fait le saut vers la Tunisie. Je vais vous parler des tribulations télénovelesques de Giorgia Meloni et du président Saïed.
Ah oui!
Oui, qui vivent une passion déchaînée.
Le couple passionné.
Oui, je pense que je vais m'abonner à leur compte X. Ça a l'air assez divertissant. D'abord, une nouvelle un peu insolite, encore une fois, mais pas drôle du tout. L'ancien président de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, Christian Kouangan, vers la mi-mars, il était porté disparu. Ce n'est que le 5 avril que l'association étudiante a annoncé qu'il avait été retrouvé et qu'il se portait bien.
Okay.
Il a été environ 2 semaines sans donner de nouvelles. Et où était-il? Eh bien, sans aucun mandat, la police l'a détenu et interrogé pendant 9 jours en l'isolant complètement. Pas de téléphone, pas d'Internet, pas de visite, pas d'avocat, sans prévenir qui que ce soit. Donc, ses proches, autant en Tunisie qu'au Cameroun, étaient rongés par l'inquiétude. Donc, 9 jours d'isolement complet dans une prison, suivi de 5 jours dans un hôtel sous haute surveillance policière. Tout ça pourquoi? Quand M. Kouangan s'est rendu dans un commissariat pour une banale question de renouvellement de titre de séjour, on l'a arrêté en raison des prises de position de l'association étudiante qu'il dirigeait plusieurs mois auparavant par rapport au discours raciste anti-noir du gouvernement du président Saïed, qui qualifiait toute personne subsaharienne, autant les migrants, les travailleurs, étudiants, de racailles, de bandits. Il parlait de complots démographiques, de grands remplacements par les Noirs, adoptant toutes sortes de mesures discriminatoires et installant un climat très intense de violence ethnique. Évidemment, l'association qui représente les étudiants noirs dénonçait vivement ce discours et les agressions sauvages que ça a engendré. Et c'est sur cette base que l'État tunisien a décidé de kidnapper l'ancien président de cette association, puis de le relâcher sans aucune forme d'excuse, malgré toutes les non-conformités judiciaires dont il a été victime.
Ben oui.
Le président Saïed, je vous parlais de romance avec la première ministre italienne.
Oui, on va attendre ça, là.
J'exagère peut-être un peu.
Ben oui.
Mais elle s'est rendue le visiter en Tunisie début avril, 4e fois en un an. Elle est allée voir de pas trop proche des camps où vivent des migrants en attente de s'embarquer vers l'Europe. Elle est passée donc par Sfax. Je sais pas si je prononce bien Sfax. Qui est depuis l'été 2023 l'épicentre des violences raciales provoquées par les discours extrêmes de M. Saïed. Madame Meloni lui demande encore une fois de contenir, entre guillemets, les migrants qui prennent la mer vers l'Italie, route migratoire qui est redevenue la plus achalandée de la Méditerranée, actuellement 2000 à 3000 arrivées en Italie chaque semaine. Les deux dirigeants semblent maintenant s'entendre sans faire d'annonce officielle sur un éventuel programme de retour dit volontaire, mais qui seront en réalité des expulsions. Et sur le terrain, les migrants qui campent à Sfax et les organisations qui les défendent dénoncent une reprise des démantèlements. Des photos de tentes calcinées ont été publiées et la panique regagne les migrants, surtout ceux dont on a détruit ou confisqué les quelques biens qu'ils possédaient.
Ouais.
Le but de la garde nationale tunisienne est peut-être atteint avec ces opérations ciblées parce que, je sais pas si, peut-être je peux comparer Sfax à Calais, mais c'est un peu la salle d'attente en bord de mer avant ouais. d'embarquer clandestinement vers l'Europe. Donc, les démantèlements ont un effet de désorganisation, de dispersion et d'éloignement des quais ou des plages. Les nouveaux campements sont maintenant le long des routes à l'extérieur de la ville et à l'intérieur des terres, donc plus loin de la mer. Donc, forcément, ça retarde de quelques semaines les départs et par ricochet les arrivées en Italie. Juste avant, tiens, les élections européennes qui auront lieu début juin, ce qui va bien faire paraître Mme Meloni, les représentants qu'elle veut faire élire à Bruxelles. Je conclue avec une petite citation que je trouvais bien tournée dans un article paru dans Le Point. Les deux, là, en parlant de M. Saïd et Mme Meloni, partagent la même méfiance pour les institutions européennes, tout en étant suffisamment agile pour en accepter les virements bancaires.
Oh, c'est bien dit.
Voilà, mais c'est pas de moi.
Un couple intéressé, donc.
Ah, c'est un mariage de raison, c'est ça.
Merci beaucoup, Simon, pour ces actualités italo-tunisoises et aussi espagnoles, évidemment. On va y aller avec quelques casseroles. Donc, à l'agenda cette semaine, un petit concert demain, le 3 mai. C'est de la part du collectif 15 mars qui vous invite à sa soirée hip-hop bénéfice dans Hochelaga Maisonneuve au centre social La Chope, avec des groupes comme Dope GNG, Forcé, Sloan Lucas et plus encore. Contribution volontaire de 10 à 20 $, donc c'est demain. La Ligue des droits et libertés présente, on vous en a parlé déjà, du 5 mars au 28 mai, Les droits humains à l'affiche, une série de 5 projections documentaires axées sur l'histoire des luttes pour les droits humains au Québec. La prochaine, c'est la quatrième, ça s'appelle, c'est intitulé « Liberté d'expression et droits environnementaux, un enjeu de pouvoir ». C'est le 7 mai prochain à l'Office national du film du Canada, à la salle Alanis Obonsawin. Inscription requise, entrée gratuite. C'est le film Le prix des mots de Julien Fréchette sur l'histoire d'Alain Deneau et de son livre noir Noir Canada chez Éco-Société. Vous en avez entendu parler sûrement à l'époque. Poursuite par Barry Gold, etc. Avec comme panéliste ensuite après le film Nicole Filion de la Ligue et Rodrigue Turgeon, copain de parole de la coalition Québec Meilleure Mine et de Mining Watch Canada. Sinon, le 10 mai prochain, à la Grande Bibliothèque à Montréal, aura lieu la deuxième édition du micro-festival du film militant. C'est un rendez-vous de convergence et de célébration des luttes environnementales et sociales. Un après-midi de projection, de discussion, plus un 5 à 7 avec les réalisateurs, réalisatrices et des militants, militantes qui présenteront leur travail. L'occasion de lever des fonds pour le collectif Montréal for Palestine. Sinon, la foire des Innes anarchistes 2024 de Montréal, qui va se passer les 11 et 12 mai. C'est à l'extérieur, près du métro Rosemont. Allez sur leur site, il y a une carte, c'est près du viaduc Van Horn, pour ceux et celles qui connaissent. Table, évidemment, de Zine Journaux. Une discussion le 11 mai qui s'appelle « La lutte anarchiste contre le technomonde » avec une présentation. Le 12 mai, discussion qui va s'appeler « Perspective anarchiste insurrectionnelle » présentée par un compagnon vivant et s'organisant en territoire Gitzan et Wet'suwet'en. Et ça se termine le dimanche avec un concert gratuit dehors à 17h avec entre autres Crab et Jet Sam. Donc, c'est à voir pour les intéressés. Sinon, ben, on s'en sort pas. 76 ans de NACBA, mais on est dans une autre NACBA actuellement. Il y a une manifestation, donc, le 11 mai devant le consulat israélien au Westmount Square à Montréal. C'est organisé par PAJU, Palestiniens et Juifs Unis. Ça, c'est une des manifs par rapport à la Palestine. Sinon, je termine avec un livre, un essai de la journaliste et philosophe Célia Isoard, intitulé La ruée minière au 21e siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition. Ça fait lien à ce que je parlais au début au niveau des Autochtones. C'est publié aux éditions de la Rue d'Orion, dont je vous lis un extrait du site web. Au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, il faudrait produire en 20 ans autant de métaux qu'on en a extrait au cours de toute l'histoire de l'humanité. Cuivre en Andalousie, cobalt au Maroc, guerre des ressources en Ukraine, ou comment répondre aux besoins colossaux du numérique, de l'aérospatial et de l'armement dans un monde où les industries occidentales rivalisent avec les superpuissances comme la Chine et la Russie. Madame Isoard se demande comment sortir de ce modèle extractiviste illusoire qui a aucune viabilité, même à court terme. Le titre du livre, La ruée minière du 21e siècle aux éditions de la Rue d'Orion.
À lire, plein d'activités aussi.
Plein, oui, exactement. Donc voilà pour l'agenda en ce 2 mai 2024. On y voit quelques notes de musique et on vous revient avec l'outro. OK, donc c'est notre thème de fin d'émission pour ceux et celles qui...
C'est moi qui ai le contrôle des pitons.
Oui, ça a été, on l'a un peu tiré, mais on n'est pas en retard dans notre temps, là, on est en avance, donc on est très...
parti sur un DJ set, là.
Oui, écoute, un mix de l'enfer. Ben avant de terminer, je voulais quand même souligner, mais on voulait souligner à l'émission notre solidarité avec les travailleurs, travailleuses du Centre Justice et Foi, de la revue Relations. Il y a eu une mise à pied subite de l'équipe il y a quelques semaines, une espèce d'imbroglio qui est pas tout à fait clair.
Assez brutal, là. Comme...
Très brutal, ben c'est ça, la mise à pied subite de l'équipe du Centre est à la fois insensée et réfléchie. C'est une lettre ouverte qui a été signée par des centaines de profs, de militants, de monde du communautaire, qui a été publiée dans les médias. Je vous en lis un extrait de la lettre. L'annonce de la mise à pied subite de l'équipe du Centre, dont celle de nos camarades de son secteur Vivre Ensemble, nous bouleverse. Cette décision est pour nous insensée et irréfléchie. L'avenir incertain de la revue Relations et des autres composants de cet organisme prophétique et notoirement respecté pour son engagement et sa rigueur nous inquiète aussi énormément. Cette décision donne l'impression de sonner de glas de l'héritage social des Jésuites de l'ancienne province jésuite du Canada français. Elle semble reposer sur une méconnaissance et une non-reconnaissance de ce riche patrimoine immatériel sur le plan social, culturel et politique, dont le conseil d'administration a la responsabilité. Il y a une page qui s'appelle « Soutenons les employés du CJF ». Ça, c'est pour aller signer la déclaration. Il y a une page Facebook du même nom. Il y a un appel aux dons aussi pour les travailleurs, travailleuses et pour lancer le numéro de relation qui devait être lancé d'ailleurs récemment. Donc, si vous n'êtes pas au courant, cherchez « Centre Justice et Foi, travailleurs, travailleuses » sur Internet. Vous allez trouver tous ces liens-là.
Non, mais en plus, c'est que la revue Relations, c'est une des plus vieilles revues qui est encore existante là, de ce type-là. Ça a 80 ans, là, quand
ouais,
même.
Ouais, au Canada, là. Ouais, tout à fait.
C'est
ça. Ouais. Donc, ben voilà. Fait que suivez ça. On a mis des informations sur notre page FB aussi là-dessus, si vous voulez nous suivre. Donc, ben, on va terminer tranquillement l'émission. On va commencer en vous disant de nous écouter soit en direct, soit sur notre page web sur le site de Choc qui s'appelle Apatrides Anonymes, soit sur notre site apatridesanonymes.info, soit sur Radio Victoria aussi, les mercredis et dimanches sur la côte ouest du soi-disant Canada.
Oui, ça c'est sur les ondes hertziennes, par exemple.
Hertziennes, voilà, FM, c'est le bon terme, mais ça existe toujours. Sinon, ben notre courriel c'est apatridesanonymes@resist.ca. Et vous dire qu'on sera de retour le 16 mai 2024. On va se laisser en musique avec... je vais vous saluer après, évidemment, les amis.
J'espère bien.
Ben oui.
On a-tu une entrevue à annoncer?
Ah, ben oui, c'est vrai. Bonne idée, j'avais oublié. C'est avec un certain Maxime Fortin, ex de la Ligue des droits et libertés à Québec et maintenant chercheur à l'IRIS, pour parler des politiques très pertinentes et très ouvertes en termes de racisme au Québec par la CAQ. Il a fait un billet là-dessus il y a quelques semaines.
Bonsoir, on pourrait faire l'émission complète là-dessus.
Sur cette actualité-là et aller un peu partout dans toutes les incongruences et toutes les contradictions. Donc, Maxime Fortin sera avec nous donc le 2 mai. Merci Marie-Ève en début d'émission. Ben, en musique, on va se laisser avec un vieux de la vieille, François Bourassa, avec son quartet, la pièce Costard de l'album Swirl. Swirl, sorti en 2023 sur F&B Records à Montréal. Donc, François Bourassa au piano et au compo, André Leroux au sax et à la flûte, Guy Boisvert à la contrebasse, Guillaume Pilote à la batterie. C'est un excellent album de jazz actuel. C'est vraiment très bon. Et on va entendre une pièce de 6 minutes pour se laisser. Donc, merci Marie-Ève à la mise en onde et aux chroniques. Merci Simon à la mise en onde et aux chroniques.
Merci Mathieu à la aux chroniques et au micro à la réalisation, choix musical.
Oui, oui, composition de la feuille de route et tout et tout. Exactement. Là, je te dis, c'était une grosse semaine.
Homme orchestre de cette édition.
C'est chacun notre tour, donc merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Bonne soirée et on se reparle dans 2 semaines.
Bonne soirée.
Bye.
Merci, merci. André Leroux, encore une fois. Guillaume Pilote. Guy Boisvert. Merci beaucoup.